Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le déficit en MCT8 et pour en parler du point de vue de l'endocrinologue, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Athanasia Stupa. Docteur Stupa, bonjour.
Bonjour à tous.
Docteur Stupa, vous êtes endocrinologue pédiatre au sein du service d'endocrinologie, gynécologie et diabétologie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris. Et vous êtes également médecin-chercheur au sein de l'équipe du professeur Polak à l'Institut Imagine et à l'Institut Cochin. Alors, docteur Stupa, pour débuter notre entretien, quelles sont les circonstances de consultation d'un endocrinologue pour un déficit en MCT8?
Bon, un patient qui a l'anomalie de gène MCT8, qui s'appelle aussi le syndrome de Allan-Herman-Dudley, est souvent adressé en endocrinologie pédiatrique à cause d'un bilan thyroïdien qui est perturbé. C'est-à-dire, un taux de TSH qui est normal ou subnormal, un taux de T4 libre qui est abaissé ou dans la limite inférieure de la norme, et inversement, un taux de T3 libre qui est élevé ou à la limite supérieure de la norme. C'est un profil thyroïdien qui est très évocateur de l'anomalie de MCT8. Il faudra aussi ici insister sur la nécessité de doser le T3 libre dans le bilan thyroïdien, mais j'aurai aussi le ratio T3 versus T4, parce que c'est en fait ce ratio et ce dosage qui nous permet de diagnostiquer la maladie. Dans des cas beaucoup plus rares, le patient est arrivé pendant l'endocrino-pédiatrique à cause des signes cliniques qui suggèrent une dysthyroïdie, qui est confirmé donc par le bilan thyroïdien que j'ai mentionné, dans l'analyse biologique, et sur le plan moléculaire, il est confirmé par l'analyse de gène MCT8.
Et donc, vous venez de l'évoquer, d'un point de vue endocrinologique, quelles sont les manifestations cliniques d'un déficit en MCT8?
Les manifestations cliniques, point de vue endocrinologique, dans cette maladie rare, sont des manifestations d'une thyrotoxicose périphérique, c'est-à-dire c'est des manifestations qui sont liées à un taux élevé de T3 sérique et l'effet en fait de ce T3 sur des tissus périphériques en utilisant des transporteurs alternatifs. Donc, la thyrotoxicose, elle va induire un effet de hypermétabolisme avec une augmentation de dépenses énergétiques, une perte de poids. Et donc, le premier signe qu'on voit en endocrinologie et surtout dans la première année de vie chez ces enfants, c'est un retard de croissance pondérale. Ils ont souvent aussi une faiblesse musculaire et une hypotonie associée. Sur le plan cardiovasculaire, les patients ils ont une tachycardie, une élévation de la pression artérielle, des troubles de rythme cardiaque et des anomalies de électrocardiogramme. Il y a des signes aussi qui ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent être évocateurs de dysthyroïdie justement périphérique. Sur le plan digestif, on a un discomfort abdominal, des diarrhées, des constipations, des troubles de la déglutition. Sur le plan hépatique, des anomalies biochimiques, par exemple une élévation des transaminases. Et notamment aussi, on a des manifestations au niveau osseux, c'est-à-dire une ostéoporose et une augmentation des fractures chez ces patients, liées bien sûr à l'immobilité qui peut être présente, mais aussi au taux élevé de T3 que je mentionnais. Et pour finir, quelques signes pas spécifiques aussi, mais qui peuvent être liés à la thyrotoxicose, comme des infections récidivantes et des anomalies de sommeil.
Alors, on sait que ces jeunes patients présentent également des signes neurologiques, notamment des retards du neurodéveloppement. Comment s'opère la coordination des soins entre endocrinologue et neurologue ou neuropédiatre?
Le neuropédiatre, le neurologue, les endocrinologues, ils figurent vraiment parmi les principaux professionnels de santé dans la coordination des soins chez ces patients, avec l'objectif commun de traiter les comorbidités associées et d'instaurer une prise en charge qui est vraiment spécifique et un suivi régulé. Sans bien sûr prendre en compte les autres professionnels qui peuvent être impliqués, notamment les généticiens, les orthopédistes, les gastro-entérologues. Donc, plus précisément, pour le rôle d'endocrinologue ou d'endocrinologue pédiatre, nous intervenons plutôt pour prendre en charge les problèmes de la croissance statéropondérale, donc la petite taille, l'hypotrophie et tous les signes de dysthyroïdie périphérique que j'ai mentionnés. Et bien sûr, on prend en charge l'ostéopénie ou l'ostéoporose. De l'autre côté, le neurologue, dont c'est un accompagnement médical qui est vraiment complémentaire à notre prise en charge, parce que ces médecins ils vont suivre le développement psychomoteur et toutes les complications neurologiques, dont notamment la dystonie, l'épilepsie, les troubles des apprentissages, etc.
On sait que le déficit en MCT8 est une maladie qui survient très jeune. Est-ce qu'on peut dépister ce déficit au plus tôt, c'est-à-dire même dès la naissance?
Avec le programme actuel de dépistage néonatal, les maladies thyroïdiennes qu'on peut dépister, donc l'hypothyroïdie congénitale, primaire ou centrale, on ne peut pas dépister le déficit en MCT8 parce que le dépistage néonatal actuellement, il est basé sur un dosage de taux de TSH ou de la T4 libre dans quelques pays. Pour faire le diagnostic de MCT8, il faudra compléter avec un dosage d'une autre hormone que j'ai mentionné, c'est l'hormone T3 ou la RT3. Et ce dosage, il n'est pas justement présent à la naissance. Il faudra par contre mentionner que justement le dépistage néonatal, il entre dans une ère de la génomique dans les années à venir avec des projets de recherche en cours, dont le projet Périgénomède en France notamment, et qu'avec ces avancées dans le domaine, on pourra probablement envisager dans les années à venir un dépistage néonatal de la maladie, mais avec un diagnostic et une prise en charge précoce pour ces patients.
Eh bien, merci infiniment, Dr Stupa, de nous avoir fait mieux comprendre cette maladie rare qu'est le déficit en MCT8. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.